Bonjour Michel Fouché.
Bonjour.
L'Union européenne a lancé hier officiellement une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Il s'agit d'essayer de mieux faire face à l'afflux de migrants. Que faut-il attendre selon vous de ce nouveau dispositif? Qu'est-ce qu'il peut changer?
D'abord une prise de conscience que la partie externe de la convention de Schengen qui n'avait jamais été appliquée est enfin prise au sérieux, même si ce déploiement du côté terrestre est assez curieux puisque la Bulgarie ne fait toujours pas partie du système Schengen. Mais c'est un message. La question la plus sérieuse, elle est maritime, c'est-à-dire que l'émigration en provenance de toute la bande saharo-sahélienne via la Libye, où il n'y a pas d'État, est un problème permanent. Et le risque, c'est que plus vous avez des bateaux, notamment de la marine italienne et de cette garde-côte européenne qui sont présents assez proches des côtes libyennes, plus les passeurs lancent des milliers de gens. Donc il y a une espèce d'interaction contradictoire à cette présence des garde-côtes, c'est ce qui va se passer.
Pour saturer l'espace, en quelque
sorte. Pour saturer l'espace et récupérer les bateaux. Ouais. On lâche les gens avant et on récupère les bateaux. Donc ça, c'est tout à fait dramatique et vous allez voir les nombres augmenter. La semaine dernière, c'était 6000 personnes parce qu'il y a 500 000 de gens qui attendent sur les côtes libyennes.
Mais il n'y a pas de solution, au fond. Si on renforce la vigilance,
la solution, c'est un État. La solution, c'est malheureusement, c'est une question migratoire. C'est un État de transit, la Libye. C'est reconstruire l'État libyen. L'État libyen était un pôle d'emploi pour toute la bande sahélo-saharienne. Ça a été détruit pour des raisons que je ne discute pas. Aujourd'hui, il faut absolument que l'État libyen soit reconstruit et redevienne un pôle d'emploi.
Ouais. Est-ce que l'espace Schengen, tel qu'il a été conçu, est aujourd'hui dépassé par
non,
la réalité
pas du tout.
Des flux migratoires?
La libre circulation. L'espace Schengen a été conçu par Helmut Kohl à la suite d'une pression des camionneurs allemands qui étaient fatigués d'attendre pendant des heures pour aller charger ou décharger leurs conteneurs sur le port de Rotterdam. C'est ça à l'origine, l'espace Schengen. Ça a été signé, je dirais, de manière assez discrète. Ça a mis 10 ans à s'appliquer. C'était d'abord un accord de libre circulation intérieure. C'est quelque chose à quoi, je crois, les Européens sont extrêmement attachés, puisque, au fond, les vieilles lignes de front sont devenues des frontières invisibles, aisément franchissables. Mais il y avait une deuxième partie dans l'espace Schengen, c'était les frontières extérieures. Frontières extérieures qui n'ont jamais été prises au sérieux, parce que la politique extérieure de l'Union Européenne, c'est l'élargissement continu. Et deuxièmement, j'ai cartographié ça dans le retour des frontières, la limite extérieure de Schengen a changé 8 fois. Vous êtes slovène. Pourquoi investir 3 milliards d'euros pour surveiller votre frontière avec la Croatie, frontière extérieure, quand vous savez que la Croatie va entrer? Donc, on a complètement sous-estimé ces questions. Un, pour des raisons de géopolitique européenne, puisque le message de l'Union européenne, c'est l'élargissement permanent. Ouais. Et là, ça commence à poser problème. Et deuxièmement, parce qu'il n'y a pas de pensée stratégique en Europe. C'est-à-dire, on ne repense pas le projet européen à l'échelle du monde. Or, le monde, maintenant, frappe à nos portes.
Qu'est-ce qui attire autant les migrants vers l'Europe?
Mais l'Europe, c'est prospère. Les droits de l'homme sont protégés quand on est réfugié syrien, demandeur d'asile. L'herbe est plus verte. Et on le sait grâce aux réseaux sociaux. Non seulement c'est comme les États-Unis, quand vous êtes d'Amérique centrale, et je dirais demain malheureusement d'Haïti. Vous savez que ça existe, les États-Unis, le Canada, et c'est votre avenir. C'est la même chose. Dans les villages maliens, il y a des stratégies familiales où on décide que tel enfant ira en France et tel autre étudie en Afrique du Sud. Donc l'Europe est définitivement attractive, non seulement à cause des différentiels de niveau de vie, et à cause des crises, mais les crises, c'est un phénomène relativement localisé d'une certaine façon, mais c'est structurellement attractif, non seulement à cause des décalages de niveau de vie et de conditions de respect des droits de l'homme, mais aussi parce que maintenant, cette information est connue.
Beaucoup plus accessible.
Tout le monde connaît Calais. Ouais. Tout le monde connaît le mot de Calais en Afghanistan, en Irak, et dans le Kurdistan, puisque c'était des Kurdes essentiellement qui sont à la Grande Synthe.
On voit aujourd'hui, à travers le monde, de plus en plus de murs ou de clôtures s'ériger, se construire. Qu'est-ce que traduit, selon vous, ce phénomène ?
Oui, d'abord, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est très médiatisé et c'est photogénique, un mur, parce qu'on peut d'ailleurs dessiner des caricatures dessus, ce que font les Palestiniens, évidemment, puisque le côté israélien a décidé de ne plus les voir, les Palestiniens, comme on dit en français. On veut plus les voir, hein, au propre et au figuré. Les clôtures, disons clôtures, il y a peu de murs en fait, c'est 6%, 6,3% de la longueur totale des frontières du monde.
C'est pas négligeable.
C'est pas négligeable. La plus longue, c'est entre l'Inde et le Bangladesh. Et c'est une frontière anti-migratoire, très, très clairement. La frontière États-Unis-Mexique est présentée comme un mur, c'est tout à fait abusif et fantaisiste, puisque c'est la frontière la plus traversée légalement du monde. C'est une zone... C'est une ressource qui permet à 30 millions de personnes des deux côtés de vivre. Il y a 150 millions de passages légaux par an, 1 milliard de dollars d'échanges tous les jours entre San Diego et Tijuana, etc., etc. Et on va se retrouver en effet dans la même situation que les États-Unis. C'est-à-dire que l'Europe, c'est un pôle de stabilité, il y fait bon vivre, il y a des opportunités, surtout dans les métropoles. On parle beaucoup de Calais. Mais si vous allez à Stalingrad, vous êtes aussi à Calais. C'est tout à fait frappant maintenant. Le flux migratoire extérieur se porte maintenant sur la capitale française. Parce qu'on survit dans une capitale. On survit, on a des relations, on finit toujours par s'en sortir. Et ça, c'est, je crois que c'est, moi je suis géographe, c'est structurel. Différence de niveau de vie et de protection humaine. Et cette différence, elle est sue. Elle est connue maintenant. C'est la mondialisation de l'information par le bas.
Vous parliez au début de notre entretien de la nécessité de restaurer un État en Libye. L'une des causes des flux migratoires auxquels on assiste depuis des mois, c'est aussi le conflit syrien. Est-ce que, selon vous, il existe aujourd'hui un moyen de sortir du conflit syrien sans passer par la Russie ?
Non. Non. Définitivement non. La Russie a toujours été un acteur des affaires du Proche et du Moyen-Orient. Malgré les accords Sykes-Picot de 1916, en fait, la Russie était partie prenante. Elle s'est sortie du jeu avec la révolution russe en 1917. Mais elle est revenue à plusieurs reprises. En Syrie, la Syrie de Hafez était un quasi-protectorat russe. Très présente en Égypte. Très présente en Égypte à l'époque de Nasser. Très présente en Irak. Longtemps présente en Iran, y compris territorialement. Une excellente expertise du monde arabe en Russie, alors que les arabistes du département d'État ont été complètement éliminés pour des raisons que tout le monde connaît. Donc, une expertise. Et puis, vu de Moscou, si vous voulez, il faut retourner la carte. C'est l'étranger proche. C'est le même théâtre de l'Ukraine à la Caspienne et à l'Asie centrale. Avec des menaces, 2000 mercenaires tchétchènes chez Daesh, plus de 2000. Sont des snipers très très bien payés. Et puis Jabhat al-Nosra, dont on parle beaucoup aimablement, disant que ce sont des rebelles, c'est la branche d'Al-Qaïda. Alors si on veut soutenir Al-Qaïda... Donc la contradiction, c'est que la Russie utilise Bachar, qu'elle méprise, pour faire jeu égal avec les États-Unis, sinon dépasser les États-Unis. Donc il n'y a pas de solution sans la Russie. C'est pour ça que Jean-Marc Ayrault était allé hier à Moscou, il me semble, avec une certaine ouverture, et aujourd'hui à Washington.
Merci Michel Fouché. Bonne journée.
Merci.